France Culture. Signe des temps. Marc Wetzmann.
Et bonjour à tous. La cérémonie d'investiture de Donald Trump demain à Washington va marquer bien plus que l'intronisation d'un nouveau président américain à la Maison Blanche, et elle ne sera pas non plus seulement le signal du retour au pouvoir du Donald Trump de 2016. Cette cérémonie en fait s'annonce comme le coup d'envoi du second quart du 21e siècle, une nouvelle ère politique, géopolitique, économique, technologique et culturelle sans équivalent dans l'histoire par son amplitude et dont personne ne peut dire précisément à quoi elle va ressembler. C'est pourquoi Signe des temps va consacrer les 7 semaines et les prochaines émissions à essayer d'explorer quelques-unes des questions qui se posent, comme quel avenir pour le progressisme en France et ce qu'on appelle aux États-Unis le libéralisme politique. À quoi ressemble ce que le professeur canadien Quinn Slobodian appelle le capitalisme d'apocalypse, et d'autres questions encore. Et on commence dès aujourd'hui avec le débat autour de l'information sur les réseaux sociaux après le rachat d'Elon Musk par Twitter et la décision de Mark Zuckerberg d'éliminer le fact-checking sur Facebook, et puis le ralliement de la Silicon Valley à Donald Trump. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Jean-Sébastien Ferjou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous êtes cofondateur d'Atlantico et directeur de la publication. Samuel Fitoussi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste également, chroniqueur au Figaro. Vous avez écrit Woke Fiction, comment l'idéologie change nos films et nos séries. Et vous allez publier en avril Pourquoi les intellectuels se trompent aux éditions de l'Observatoire. Et enfin, David Chavalarias, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes mathématicien, directeur de recherche au CNRS, auteur de Toxic Data, comment les réseaux sociaux manipulent nos opinions. Et vous êtes surtout, en l'occurrence, partout en ce moment, pour être à l'origine de co-créateurs, en tout cas de l'initiative Hello Kitty X, qui invite les utilisateurs de X à quitter le réseau social et à les accompagner. Vous proposez de les accompagner techniquement pour récupérer et transférer leurs données vers un autre réseau social. Le départ est censé se faire demain, symboliquement. Symboliquement, le jour de l'inauguration de la nouvelle présidence de Donald Trump. Une soirée de lancement de Hello Kitty X a lieu le soir même à l'Institut des systèmes complexes de Paris-Île-de-France. Deux mots sur cette initiative.
Alors, c'est une initiative très intéressante parce qu'elle est collective et composite. Très rapidement, en gros, donc moi, comme vous l'avez rappelé, je travaille sur la question des réseaux sociaux depuis plusieurs années, notamment X. J'identifiais, et mes collègues aussi, plusieurs dangers à propos de X. Et l'élection de Donald Trump, et l'engagement d'Elon Musk à ses côtés, on a eu un petit peu une démonstration assez flagrante du problème que peuvent poser ce réseau social, puisqu'on a eu quelqu'un qui devait aller en prison et qui est devenu président des États-Unis. Et pour cela, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est associé donc avec la tech, donc notamment Twitter, qui dispose de 100 millions d'Américains sous sa main et qui a permis d'influencer l'opinion, notamment à coup de fausses informations. Et donc vous avez un réseau non modéré qui a balancé des fausses informations. Alors, je vous vois rigoler, mais quand vous dites, vous mettez des fausses infos, vous faites des deepfakes de Kamala Harris, ou quand vous créez un faux site de programme de Kamala Harris avec un faux programme dedans et que vous orientez des gens dessus, c'est de l'usurpation d'identité, c'est de la désinformation.
Alors, vous savez que ça existait de manière transpartisane.
Attendez. Je juste finis ma chose. Donc, si vous voulez, on pourrait évidemment bien développer ça. Mais ce que je veux dire, c'est juste que on fait un constat depuis longtemps de la toxicité de X. Des mesures, on pourra en parler. Oui, il y a eu donc ces élections américaines qui ont montré l'alliance donc de Musk avec Trump à des fins, en gros, de conquête de l'opinion. Et on voit aussi que, évidemment, Musk ne s'arrête pas là puisqu'il commence à faire la même chose en Europe. Donc, juste quelques jours après, j'ai fait une tribune pour dire il serait temps de réfléchir à comment, où se fait l'information chez nous, et X n'est plus le bon endroit pour avoir le centre de gravité de l'information, puisque encore maintenant, beaucoup de politiques et de journalistes sont sur X, et de dire il faudrait aller sur d'autres plateformes dont on sait qu'elles sont plus vertueuses. La science a fait beaucoup de recherches là-dessus, donc c'est des plateformes décentralisées, Blue Sky, Mastodon. Je vous vois rire, mais je pense que vous n'avez pas fait de recherche là-dessus.
Non, mais Stanford...
Attendez, je vais finir votre phrase.
Et donc le message principal était de dire il faut arriver à explorer ces nouveaux réseaux sociaux, donc Blue Sky et Mastodon. Mais un des principaux freins, c'est que on peut pas l'explorer avec nos amis. C'est-à-dire qu'on perd nos connexions parce que les réseaux sociaux, Twitter sont fermés, comme Facebook, etc. sont fermés. Ils vous ne permettent pas d'apportabilité. C'est pas comme quand vous voulez changer d'opérateur téléphonique, vous ne pouvez pas partir avec votre téléphone. Donc j'ai fait cet appel-là. Et ensuite, après cet appel-là, un autre groupe citoyen qui avait d'autres, plusieurs, qui était composé de plusieurs organisations. Il y a la Ligue des droits de l'homme, la Quadrature du Net.
Attendez, on va y venir justement.
Dire que c'est sur deux jambes.
J'ai plusieurs questions à vous poser. Première est celle-ci. Vous avez déclaré à West France qu'il s'agissait d'un mouvement collectif transpartisan et apolitique qui aide les citoyens à se réapproprier des espaces numériques compatibles avec des démocraties fonctionnelles. Alors.
Tout à fait.
Oui. Quand on regarde la liste des membres telle que vous la diffusez, je vais en citer certains en tout cas, parmi les membres du mouvement Hello Kitix, on a Ari Halimi, vice-président de la Ligue des droits de l'homme, effectivement très engagé politiquement, notamment co-signataire avec Vincent Lemire d'une tribune sur l'antisémitisme publiée dans Le Monde en juin dernier, expliquant qu'il n'y avait pas d'équivalence entre l'antisémitisme de gauche et les contextuels et l'antisémitisme ontologique du Rassemblement National. David Dufresne, cinéaste, lui aussi engagé, notamment réalisateur du documentaire « Un pays qui se tient sage » et aussi représentant, en l'occurrence, dans votre groupe du média Au Poste, qui propose, entre autres choses, sur sa page d'ouverture, un long entretien de 2 heures avec Rima Hassan. Magali Payen, fondatrice du mouvement citoyen, On est prêt, qui est également un mouvement militant. Paula Forteza, députée ex-En Marche, qui a fondé le mouvement Hyperion avec Jean-Pierre Mignard et Aurélien Taché. Et enfin, le plus intéressant dans ce contexte, Benjamin Sontag, fondateur de la Quadrature du Net, qui, sur sa page, se félicite notamment de ses actions militantes et en particulier d'avoir déposé en mai dernier un référé demandant au Conseil d'État de suspendre la décision du Premier ministre de l'époque de bloquer en Nouvelle-Calédonie la plateforme TikTok, avec cette raison. Par cette décision de blocage, le gouvernement porte un coup inédit et particulièrement grave à la liberté d'expression en ligne que ni le contexte local ni la toxicité de la plateforme ne peuvent justifier dans un état de droit. Alors, ça pose quand même plusieurs questions. La première, c'est est-ce que c'est vraiment un mouvement apolitique ? À l'évidence, non.
Ah non, je peux vous le défendre, mais si vous voulez, on prend le temps pour le défendre, mais je peux vous assurer que non.
Non quoi ?
Vous êtes en train de me dire...
Un politique de gauche radicale.
Non, attendez, excusez-moi. Je suis en train de vous dire, on construit, en tant que CNRS, une plateforme technique pour permettre la portabilité des données d'un réseau social qui est devenu toxique, et on l'a démontré plein de fois, je peux revenir dessus, vers des réseaux sociaux plus vertueux.
Dans l'idée que vous...
Attendez. Donc, maintenant, je vous donne une analogie. Vous allez au feu dans cette pièce, d'accord ? Moi, je dis... Il faut faire une issue de secours pour que les gens, s'ils veulent sortir, fassent.
Vous avez le droit de faire ça.
Les gens qui me rejoignent, les premiers pour faire ça, et qui avaient aussi eu cette idée de cette issue de secours, sont les gens que vous venez de mentionner. Je n'en ai rien à faire de leur opinion politique. Parce que la question que je me pose, c'est pourquoi il n'y a pas plus de gens divers qui se sont en train de construire cette issue de secours. Parce que c'est ça le problème.
Parce qu'ils voient qu'il n'y a pas le feu.
Ah bon, il n'y a pas le feu ?
Alors, mais attendez.
Oui. Ah bon, il n'y a pas le feu ?
D'accord.
Jean-Sébastien Ferjou. Avec les infos, les informations qui font des émeutes, c'est pas le feu, ça ?
Jean-Sébastien Ferjou.
Non, c'est pas le feu.
Musk a le droit.
Mais pardon,
attendez, pas tous en même temps. Jean-Sébastien Ferjou.
Le principe de la liberté d'expression avec le contenu qui y est mis. Mais il y a des tas de manières différentes de vous répondre. Déjà, techniquement, non, je crois que votre étude, elle portait sur 400 comptes, si je ne me trompe pas. Moi, j'ai regardé des études qui ont été faites par les universités de Princeton, de Stanford, par l'Académie de médecine américaine. Toutes, et je pourrais vous en citer d'autres encore, portant sur des dizaines de milliers de comptes. Toutes aboutissent à la même conclusion. Il n'y a eu quasiment aucun impact des réseaux sociaux, pas forcément X, des autres réseaux sociaux, sur les résultats électoraux aux États-Unis, notamment après l'élection de 2016, parce que les gens, ayant la même sensibilité politique que vous, ont essayé de montrer, de démontrer que les Américains, s'ils avaient voté pour Donald Trump, ça n'était pas parce qu'ils étaient des citoyens éclairés, mais uniquement parce qu'ils seraient des imbéciles prêts à gober n'importe quoi qu'on leur dirait sur les réseaux sociaux. La réalité, c'est que X n'a pas beaucoup eu d'impact sur l'élection américaine. Vous pouvez regarder une autre carte qui est beaucoup plus intéressante si vous vous intéressez à l'analyse rigoureuse de l'élection américaine. C'est très lié à des critères sociologiques. C'est très lié, par exemple, il y a une carte qui est fascinante. Vous regardez la carte des morts des opioïdes aux États-Unis, des comtés où il y a eu des morts par opioïdes, vous savez, cette épidémie absolument épouvantable qui a été largement, qu'on a laissé se développer largement parce que l'industrie pharmaceutique avait les moyens d'acheter la Maison Blanche, notamment quand c'était Barack Obama qui s'y trouvait. Et donc cette carte-là, elle explique, elle prédit le résultat électoral de manière quasi infaillible. Moi, ce que je constate, c'est que vous vous émouvez, vous avez... à propos de X, mais c'est parfaitement votre droit, c'est légitime, vous avez le droit de quitter X, vous faites ce que vous voulez, ça, moi, je suis libéral, je crois à la liberté. Mais absolument pas pour TikTok. Ah, alors c'est... qu'aux États-Unis, les seules études qui montrent qu'un réseau social a eu un impact, c'était sur TikTok, sur l'antisémitisme. Et comme l'a rappelé Mark Weitzman, il se trouve que les gens qui sont derrière votre mouvement, ce sont ceux qui considèrent que l'antisémitisme de gauche, c'est pas si grave que ça, alors que l'antisémitisme de droite, c'est mal. Donc moi, je me moque de ce que dit Elon Musk. Vous savez, ça n'est pas parce que Elon Musk me dirait de faire ci ou ça que je me précipiterai derrière pour le faire. Et je pense que vous avez un problème fondamental avec le concept de démocratie. Le pari à la base de la démocratie, c'est de considérer que chaque citoyen est capable de se forger un avis par lui-même de manière éclairée. Donc si vous prenez les Américains ou les citoyens européens pour des imbéciles qui, parce que Elon Musk leur dirait de voter pour l'AFD, ou parce que Elon Musk leur dirait si ou ça, et que derrière, ils se précipiteraient dans les urnes pour le faire sans avoir jamais eu l'idée de le faire auparavant, ben vous vous trompez. La preuve, c'est qu'ils ne vous suivent pas, vous non plus. Alors, donc les gens, ils sont capables de se forger un avis par eux-mêmes.
Samuel Fitoussé qui n'a encore rien dit, après je vous repasse la parole.
Oui, je pense que aussi quand vous dites un réseau social est toxique, un réseau social est vertueux, la science l'a démontré. La science c'est peut faire certaines choses, mais beaucoup de choses sont subjectives et ça dépend de vos propres opinions politiques et de vos propres biais. Par exemple, vous dites Elon Musk fait monter l'AFD, ce qui est très mal. D'autres favorables à l'AFD pourraient vous dire c'est pas une mauvaise chose que plus d'opinions soient représentées démocratiquement sur Twitter ou sur X. Maintenant, j'aimerais aussi me faire l'avocat des réseaux sociaux parce qu'on pointe souvent les problèmes qu'engendrent les réseaux sociaux, vous le faites dans votre livre à très juste titre, mais les réseaux sociaux ont aussi, et notamment X, ont aussi beaucoup de qualités. Vous parlez des fake news, mais il y a aussi beaucoup de fake news qui sont très précisément empêchées par les réseaux sociaux. En novembre 2023, il y a eu le Hamas a déclaré qu'Israël avait bombardé un hôpital et tué 500 personnes. Le Monde, le New York Times et beaucoup d'autres grands médias se sont empressés d'envoyer des notifications push à leurs millions d'abonnés pour relayer ça comme un fait. Et dans la nuit, grâce à Twitter, on a appris petit à petit que on a appris petit à petit que c'était en fait un tir du Hamas qui n'avait pas atterri sur l'hôpital mais sur un parking et qui n'avait pas tué 500 personnes mais une dizaine. Donc il y a beaucoup de fake news comme ça que les réseaux sociaux permettent de démentir. Et par ailleurs, il y a peut-être une forme de c'était mieux avant qui est illusoire dans ce que vous dites, parce que quand on s'intéresse un peu à l'histoire du XXe siècle, le XXe siècle est une suite de fake news qui ont mis des années à être démenties. Dans les années 30, il y avait une famine en Ukraine, et ben le New York Times a passé 2 ans à la nier. Et si cette même famine avait lieu aujourd'hui, peut-être que grâce aux réseaux sociaux, grâce à X, grâce à l'horizontalité de l'information, la vérité surgirait un peu plus rapidement. Donc oui, bien sûr, il y a beaucoup de fake news qui nuisent sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi beaucoup de fake news démenties, et on peut peut-être faire confiance à l'intelligence collective et à l'intelligence citoyenne.
David Chavalarias, répondez, puis après j'ai une question.
Excusez-moi, et j'aimerais bien aller jusqu'au bout sans qu'on m'interrompe, parce que quand même, ce que vous dites, c'est assez grave. Vous êtes deux journalistes, vous n'avez pas travaillé sur les réseaux sociaux directement d'un point de vue technique, vous ne savez pas ce que vous dites que je n'ai pas condamné TikTok. C'est dans mon livre, il y a un chapitre qui s'appelle « Est-on toc-toc d'être sur TikTok ?»
Vous êtes en train de faire un mouvement, je quitte TikTok, vous êtes en train de faire un mouvement, je quitte X.
Attendez, chaque chose en son temps, hein, chaque chose en son temps. On prend des paroles sur TikTok, on prend des paroles sur X. Mon laboratoire travaille sur X depuis 7 ans. C'est tout à fait normal
que je... Attendez, au monde à travailler sur...
Oui, non, mais je dis, c'est tout à fait normal que je fasse un projet sur X. C'est la liberté académique. Si je veux implémenter la portabilité de X vers d'autres réseaux sociaux, c'est un programme de recherche. C'est dans la feuille de route européenne qui est publiée par l'Europe. Donc, je n'ai aucun problème avec ça. Vous commencez à détourner sur les questions d'antisémitisme, ça n'a rien à voir. Vous êtes en train de faire une attaque personnelle sur les personnes du membre du collectif, ça n'a rien à voir. Quand vous prenez le métro, vous ne vous posez pas la question.
Que vous dites que c'est un mouvement apolitique, ça ne l'est pas, c'est un mouvement de gauche radicale.
Est-ce que quand vous prenez...
C'est votre droit, ça n'est pas un crime, vous savez, c'est légitime. Vous savez, on a le droit d'être libéral comme on a le droit d'être.
Mais c'est une fausse accusation, cher monsieur. C'est une fausse accusation. Quand vous prenez le métro, vous ne vous posez pas la question de savoir si le conducteur est de gauche et de droite, et vous ne dites pas je suis dans un moyen de transport de droite.
Vous posez la question de savoir si Musk est de droite ou de gauche.
Non. Quand j'utilise X, je me demande si X respecte la loi. X a plusieurs procédures de DSA. X ne respecte pas la loi actuellement.
Attendez.
Alors X n'a jamais respecté.
Respecte la loi américaine.
X n'a jamais respecté la loi européenne. C'est vous qui le dites. Ok. Moi, ce que je dis, c'est X ne respecte pas la loi européenne, eh bien allons sur des réseaux sociaux qui respectent la loi européenne. Est-ce que vous êtes contre ça? Est-ce que vous êtes contre le fait d'aller sur des réseaux sociaux?
Le règlement européen, la directive européenne est dangereuse en matière de liberté d'expression.
Ah, donc vous êtes contre la loi européenne en fait?
Alors, vous êtes contre elle est dangereuse, elle est mal formulée.
Très bien. Donc, je veux juste finir ça. Donc vous avez quelqu'un qui sur une antenne de France Culture est contre la loi européenne et qui s'en sert pour attaquer un scientifique qui essaie d'aller dans le sens de la loi européenne.
Si vous voulez bien, une seconde. Sur la scientificité de la méthode, alors j'ai lu votre étude, qui s'appelle donc, en français, Audit crowdsourcé des systèmes de recommandation de Twitter, qui date d'octobre 2023. Vous dites vous-même que les participants se sont auto-sélectionnés. Ils ont choisi de prendre part à l'étude après avoir pris connaissance par des articles de presse et des émissions de radio à l'automne 2023. Vous dites également, notre groupe n'est pas représentatif de l'audience de Twitter en termes d'utilisation d'appareils, de démographie ou de statut socio-économique. Nous ne prétendons pas que les résultats de notre étude peuvent être extrapolés à l'ensemble de la population de Twitter.
Tout à fait.
Vous êtes quand même beaucoup plus prudent dans votre étude qu'au micro.
Non, je vais vous dire une chose. Ce que dit cette étude, alors on va prendre un des résultats de l'étude. Ce que dit cette étude, c'est que sur un échantillon de 400 personnes, ce que l'on a fait, c'est quoi ? On a pris des volontaires qui ont accepté de partager avec nous ce que leur recommandait Twitter, c'est-à-dire ce qui arrive dans leur fil d'actualité. Ce qu'il faut savoir, c'est ce qui arrive dans votre fil d'actualité, ce n'est qu'un tout petit pourcentage que ce que produit les gens auxquels vous vous êtes abonné. En gros, Twitter vous montre seulement 5-10% de ce que produit votre environnement social, et donc il fait un filtre. La question de cet article, c'est quoi ce filtre ? Donc on a recruté des gens qui ont partagé avec nous ce que personne ne voit, c'est-à-dire en gros ce qu'on leur recommande. On n'a pas pris leurs actions. On a regardé ce que Twitter leur recommande. Et on a comparé ça avec ce qu'ils auraient pu voir étant donné leur environnement social. D'accord ? Ce qu'on a montré, c'est que ces 400 personnes, parce qu'on a pris 400, on en avait beaucoup plus, mais on a pris ceux pour lesquels on pouvait être sûr des résultats en termes de significativité statistique, c'est que ces 400 personnes, leur fil d'actualité était enrichi à 49% en contenu dit toxique, c'est-à-dire insultes, obscénités et attaques personnelles, etc. Donc ça, c'est un fait, c'est-à-dire que vous prenez un échantillon de 400 personnes qui, effectivement, et plus des gens du centre et gauche.
Quand même qu'il y a des universités américaines qui ont fait des études sur des dizaines de milliers de comptes. Des volontaires.
Expliquez-moi d'un point de vue statistique.
Mais vous voulez qu'on fasse le fact-checking?
Attendez.
Sur mon fil Twitter.
Vous allez me dire si vous trouvez que c'est un fil Twitter maintenant.
Jean-Sébastien, c'est pas moi qui l'ai sélectionné.
Jean-Sébastien Ferjou,
l'algorithme de. Vous voulez le regarder pour voir si c'est un
fil? Je peux finir de décrire ce qu'on a fait dans l'étude.
Oui.
Ou est-ce que vous vous intéressez pas?
Allez-y.
D'accord. Pas scientifique.
C'est une étude qui a été publiée, revue par des pairs dans le journal Nature. Ok. Donc, si vous voulez aller voir Nature, alors disant que ce qu'ils publient, c'est pas scientifique, je veux bien.
Mais là, on en discute. Vous avez vu l'article dans Nature qui évoquait le fait que le système de revue par les pairs n'était plus crédible, j'imagine, puisque vous êtes scientifique et attaché à la rigueur scientifique. Vous l'avez vu.
Écoutez, vous êtes en train de faire une attaque sur la science.
Je ne crois pas que vous soyez la science.
Donc vous faites une attaque sur mon travail, alors que vous n'allez pas les compétences.
Ça n'est pas une attaque.
Attendez, Jean-Sébastien, une seconde.
Je termine mon truc, d'accord ? Ok, donc on constate, sur un échantillon de 500 personnes, en gros, ou 400 et quelques, qu'il y a un biais de toxicité dans leur fil. Par ailleurs, ces gens-là, dans leur échantillonnage, sont en gros de la gauche jusqu'à Macronie. Par rapport à l'extrapolation de deux choses l'une. Soit sur les autres utilisateurs, c'est plus toxique, donc c'est pire. D'accord ? Soit sur les autres utilisateurs, c'est moins toxique. Et donc c'est même pire. C'est-à-dire que Twitter va cibler une sous-population où elle va rendre l'environnement plus toxique, alors que sur le reste de la population,
c'est moins toxique.
Il faut comprendre comment ça marche, les réseaux sociaux. C'est quoi qui est à la base des algorithmes ? Qu'il puisse y avoir quelques biais idéologiques, certainement. Il y en a sur tous les réseaux sociaux, mais il n'y en a pas que dans les réseaux sociaux. Il me semble qu'il y en a à l'université, il y en a au CNRS, il y en a, non mais dans les lycées,
on ne va pas avancer. Je quitte le service public de l'audiovisuel, je quitte je ne sais quoi.
Je respecte justement la diversité des opinions. Les algorithmes, comment ça fonctionne ? Parce que ça a à voir avec le modèle économique des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce qui les intéresse, c'est le temps
qu'on passe
sur les réseaux sociaux et l'engagement. Il se trouve que, et de nombreuses études ne portant pas sur 400 volontaires sélectionnés à travers des médias de la presse de gauche, il se trouve que l'être humain est ainsi fait que les contenus négatifs ou radicaux sont plus regardé.
Bien sûr.
Et génère plus d'engagement. Donc, en gros, pour le résumer, ce que fait un algorithme, c'est qu'il vous met sous le nez ce que vous détestez ou ce que vous adorez. Alors, il se trouve que les gens que vous regardez, ben, ils détestent certainement un certain nombre de choses et c'est ça qu'on leur met sous le nez. Moi, j'ai un usage différent de Isk. Si vous voulez, je peux vous dire ce qu'il y a là sur mon compte Twitter. Il n'y a que des sources parfaitement légitimes. C'est une source d'information extraordinaire. Et je me moque éperdument de ce que dit Elon Musk par ailleurs. Je ne le défends pas. Je trouve que Monsieur Musk, pour des tas de raisons différentes, est une personnalité éminemment contestable. Le rapport qu'il a à la famille, à l'idée qu'il se fait du genre humain, de son avenir, etc. Donc, je ne suis pas là pour défendre Monsieur Musk. Je vous dis juste que vous êtes dans une espèce de panique morale. Que s'il y a un réseau social.
Excusez-moi, mais.
Non, mais pardon, monsieur. Non, soyons sérieux 30 secondes. Ouais. Soyons sérieux 30 secondes. Que s'est-il passé ces dernières semaines en Europe? Qu'est-ce qui a eu un impact véritable? En tout cas, c'est comme ça que l'Union européenne, puisque vous adorez l'Union européenne, y a fait référence. L'élection présidentielle en Roumanie. Que s'était-il passé sur l'élection présidentielle en Roumanie? TikTok avait été utilisé. Comme TikTok est devenu une source majeure de diffusion de l'antisémitisme aux États-Unis, ça a été démontré, monsieur, sur des dizaines de milliers de comptes, pas sur 400 volontaires. En Roumanie, TikTok a eu un impact sur le résultat de la présidentielle. Alors après, on peut avoir un avis différent sur est-ce que la Cour suprême roumaine aurait dû ou non faire refaire l'élection présidentielle. Et pourquoi ça a eu lieu? Parce que ça, c'est intéressant, il faut que chacun d'entre nous le sache. C'est-à-dire que quand vous voyez, vous savez, notamment les publicités absurdes sur les articles, parce que c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus inquiétant que ce que vous voyez, vous, sur vos études. Les publicités, vous savez, des fois, vous dites, mais c'est quoi cette publicité complètement idiote? Ou même dans les jeux, quand vous jouez à des jeux, à n'importe quel jeu sur un smartphone. Parce que ces publicités absurdes sont délibérément utilisées pour cibler les plus crédules. Parce que précisément, le problème n'est pas de générer du chiffre d'affaires sur ce qu'elles vendent, c'est de voir les gens qui sont prêts à croire un peu à n'importe quoi, parce qu'on vous vend une poudre de perlimpinpin, ou parce qu'on essaie de faire croire que vous allez gagner 1000 euros par mois en passant juste votre temps à jouer à je ne sais quel jeu. Ils le font pas parce qu'ils veulent générer du chiffre d'affaires là-dessus, ils le font pour récupérer ces données-là. La question est celle des données, la question est celle des algorithmes, non pas sur le biais idéologique, mais sur le biais de polarisation affective, c'est-à-dire que ça nous pousse effectivement à aller vers des contenus tous autant que nous sommes, parce que je vous le disais, c'est la nature humaine qui est ainsi faite, nous allons vers des contenus qui sont plus radicalisés de manière plus polarisante. Et c'est ça qu'il faut que nous ayons en tête. Et le mouvement Je quitte X, pardon, mais c'est juste parce que vous ne tolérez pas qu'il y ait des gens qui d'un seul coup brisent la domination de la parole de gauche, parce que en tant... Mais Atlantico est un site libéral, monsieur. L'algorithme de Twitter nous a toujours censurés. Où étiez-vous? Où étaient les chercheurs du CNRS? Alors, financé sur fonds publics, quand toute une partie de la population était censurée. Et vous savez ce qu'ont montré les études américaines?
J'ai écrit Toxic Data, c'est écrit dedans. Lisez-le, vous vous apprendrez des choses.
Les études américaines, elles ont montré une chose très simple, et c'est ce que Mark Zuckerberg a fini par reconnaître aussi, c'est-à-dire que la modération, pour des raisons techniques aussi, parce que c'est extrêmement difficile de modérer, des volumes de contenu absolument phénoménaux sont des centaines de millions de posts chaque jour dans le monde, ça a abouti à censurer qui aux États-Unis? Les républicains. Et pas parce qu'ils voulaient en soi exclure les républicains, mais parce que les thèmes abordés par les républicains étaient considérés comme des thèmes offensifs par les outils de modération. Et donc la modération, c'est un outil de censure. Et encore une fois, moi je pense que la force des démocraties, monsieur, c'est dans ce que je vous disais tout à l'heure, croire que tout un chacun est capable de se forger un avis éclairé sans avoir besoin que vous lui indiquiez où voter ou où ne pas voter. Et que, deuxième point, la grande force de la démocratie libérale, c'est la mise en compétition des élites.
Alors, attendez. David, il y a deux, trois éléments que je voudrais donner, des éléments d'information. Effectivement, sur le fact-checking, historiquement, c'est la possibilité, enfin, c'est le travail qui consiste à vérifier les faits dans un article donné ou dans un livre donné avant sa publication et non pas l'arbitrage constant des informations une fois qu'elles sont publiées, comme ça s'est fait
sur... La façon anglo-saxonne faisait, c'est un outil qu'elle a utilisé.
Et il y a, sur le fact-checking, il y a un certain nombre d'informations qui sont données dans un article du Point de Jacob Machangama qui sont intéressants. Une étude faite par le The Future of Free Speech, un think tank américain, montre que le fact-checking de Facebook Facebook fait que 87 et 99% des commentaires supprimés sur 60 des plus grandes pages Facebook et chaînes YouTube en France, en Allemagne et en Suède étaient en fait des contenus légaux. 56% des commentaires supprimés n'étaient que des opinions générales ni offensantes ni haineuses. Par ailleurs, le statisticien américain Nate Silver, qui est pratiquement un des plus grands statisticiens américains, montre que qui est contre Trump, cite une étude du New York Times et de Upshot réalisée en 2019 qui montre que les démocrates sur Twitter étaient beaucoup plus progressistes, beaucoup plus blancs et beaucoup plus susceptibles d'avoir fait des études supérieures que ceux de l'électorat démocrate dans son ensemble. Donc il y a effectivement un certain nombre de biais sur les réseaux sociaux, évidemment, mais c'est peut-être plus complexe que simplement de la manipulation. Pour finir, juste, je voudrais donner la parole une seconde à Samuel Fitoutsi qui dit pas grand-chose. Pour finir, la question qui se pose sur la polarisation des débats sur les réseaux sociaux, la question qui se pose, c'est de savoir si on n'est pas rentré dans une forme de post-journalisme et si en fait les médias ne sont pas aujourd'hui à la remorque des polarisations plutôt que dans l'étude des idéologies. D'abord, Samuel Fitoussi, et ensuite, je vous passe la parole.
Un mot sur le fact-checking. Je pense qu'il ne faut pas confondre le fact-checking, c'est noble et c'est une bonne chose qu'il y en ait. Des journalistes qui cherchent à voir où est la vérité, à dire à leur lecteur, attention, tel homme politique a fait telle affirmation, mais en fait, tel article et tels travaux de recherche indiquent que c'est plutôt l'inverse. Et la pratique qui consiste à demander à des journalistes de fact-checker une info et en fonction de l'opinion à laquelle ils parviennent, censurer ou non cette information sur les réseaux sociaux. Ça, à mon sens, c'est très grave et il y avait ça jusqu'à Musk justement sur Twitter et c'est une très bonne chose qu'il n'y ait plus cela et que d'ailleurs Meta et Mark Zuckerberg, Facebook et Instagram,
Google aussi
s'en détournent tout simplement parce que les journalistes, les fact-checkers peuvent se tromper. À nouveau, l'histoire du XXe siècle est éclairante. Dans les années 70, le journal Libération et Le Monde, pendant un an, a nié le génocide au Cambodge, le génocide par les Khmers Rouges. 2 millions de personnes sont mortes. Et les fact-checkers de Libération et du Monde disaient qu'il n'y avait pas de génocide. C'est Libération qui a continué le plus longtemps. Donc, si le fact-checking et les réseaux sociaux avaient existé à l'époque, ça nous aurait mené, au nom de la lutte contre la désinformation, à censurer, à interdire les gens disant qu'il y avait un génocide au Cambodge. Donc le problème quand on ne tolère plus les contre-vérités, c'est que si on se trompe, on ne tolère plus la vérité. Donc peut-être que le fact-checking, c'est noble quand ça consiste à nouveau à essayer d'informer ses lecteurs et de donner des contrepoints, mais pas quand ça consiste à censurer au nom de l'opinion subjective.
Juste d'un point, de manière très rapide, les études qui ont été faites, encore une fois, sur des dizaines de milliers de journées de fact-checking montrent que les notes de communauté sont plus efficaces pour rapporter la vérité que le fact-checking.
Et sur l'exemple du Cambodge, juste un point, de fait, aux États-Unis, il y a un certain nombre d'affaires qui ont été effectivement censurées par les fact-checkers, l'affaire de l'ordinateur de Hunter Biden, l'origine du Covid, pour des raisons absurdes,
l'impact du Covid
sur les raisons. Il y a ça, tous les journalistes américains le disent, y compris les démocrates.
Et par ailleurs, il faut dire que vous avez raison qu'il y a des chambres d'écho sur les réseaux sociaux, que les internautes ont des biais, mais les journalistes, eux aussi, ont des biais. Et les journalistes, eux aussi, peuvent être sujets à des chambres d'écho. C'est d'ailleurs assez étonnant quand on lit votre livre, vous parlez des chambres d'écho, des bulles de confirmation des croyances, mais c'est toujours les autres. Ça ne peut pas être vous, ça peut pas être... On a l'impression que vous luttez...
Vous êtes en train de m'attaquer personnellement pour dire que ma parole n'est pas valide parce que je serai dans une chambre d'écho, c'est ça ?
Non, David Chavalarias.
Ah bon, alors, d'accord. Allez-y.
Il faut tous qu'on fasse attention à nos propres biais, à nos chambres d'écho, y compris les fact-checkers, y compris les journalistes, y compris ceux qui lancent un mouvement Je quitte X pour se protéger des opinions contradictoires.
Non, il y a des opinions contradictoires ailleurs, vous inquiétez pas. C'est X fabrique des chambres d'écho, c'est démontré. Il y a une thèse qui vient de sortir là-dessus. Écoutez, ne dites pas non, vous n'êtes pas dans le domaine. Hein. Je reviens juste sur mon article. On ne va pas épiloguer parce que ça mettrait trop longtemps. Faites écrire un article qui démontre cet article-là, vous le faites publier et on en reparle. Comme ça, c'est réglé. Okay, mais je maintiens que la taille des échantillons pour cet article n'a pas d'impact sur l'interprétation qu'on en fait.
Comment c'est possible que ça n'ait pas d'impact ?
Des dizaines de milliers de comptes aux États-Unis.
Attendez, Jean-Baptiste Ferjou, comment est-ce que c'est possible que ça n'ait pas d'impact ?
C'est pas moi, ça.
ça a pas d'impact sur ce qu'on en dit.
Et pourquoi?
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé la toxicité, l'amplification de toxicité sur un ensemble de comptes. Les intervalles de confiance sont sans appel, la toxicité est amplifiée sur cet ensemble de comptes.
Quelle est la définition de la toxicité?
Comment est-ce que...
Quelle est la définition de la toxicité?
La toxicité est définie par des... Attendez, vous ouvrez plusieurs champs en même temps.
Non, mais...
On y répond.
Non, mais j'ai juste une question. Pourquoi dites-vous que ça, le nombre de comptes étudiés n'a pas d'impact sur le résultat de l'étude? Je ne comprends pas.
Ce que je veux dire, c'est que les résultats qu'on a donnés, on se concentre sur les résultats qu'on peut dire étant donné la taille de l'échantillon.
Oui.
Donc ce qu'on a dit étant donné la taille de l'échantillon est valide. Il y a des intervalles de confiance. Je veux dire, c'est valide. C'est pas une question. Vous pouvez dire, si vous avez un accident de voiture, vous ne vous dites pas je vais attendre d'avoir 400 accidents de voiture pour dire qu'il y a eu un accident de voiture.
Mais vous dites vous-même dans votre étude qu'il faudrait des études plus poussées pour arriver à une... que votre échantillon n'est pas représentatif de l'ensemble des utilisateurs de Twitter.
Déjà, ce n'est pas la seule étude qu'on a faite. On a d'autres articles. Il y a une thèse qui est sortie. Sur cette thèse-là, il y a la Commission européenne qui a des affaires contre Facebook, contre X. Donc, c'est pas le seul article. Ce qu'on dit dans l'article, on le dit avec des précautions. Et ce que l'on dit est validé étant donné la taille de l'échantillon. Je pense que c'est pas ici pour faire un cours technique. Si vous voulez, on revient deux heures avec des spécialistes, y compris vous, monsieur, si vous voulez. On en parle, mais je pense que là, on dérive. Après, il y a une autre chose. Monsieur Fitoussi a dit, les réseaux sociaux, c'est bien parce que il faut pas trop les modérer parce que sinon, on pourrait pas avoir telle et telle information. Très bien. Nous, c'est pas ça qu'on dit. On dit, c'est bien d'avoir la modération, une certaine modération, parce qu'il faut le rappeler que,
oui,
par exemple, attendez. Non.
Mais si, monsieur, c'est ce que vous souhaitez.
Écoutez, vous avez vu les rapports d'Amnesty International sur les génocides en Érythrée et en Birmanie, ok? Le constat, c'est qu'un Facebook mal modéré a fait une participation majeure au développement du génocide dans ces deux pays. Si vous regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, en Angleterre cet été, la fausse information de Tommy Robinson qui disait que...
Vous savez que c'était une vraie information. Vous savez que le gouvernement britannique a reconnu que ce qui était considéré comme une fake news l'été dernier,
c'est-à-dire
à savoir que le tueur d'enfants n'ait pas eu de motivation djihadiste, a été reconnu comme une fake news. La justice britannique a finalement, en le mettant en examen, l'a mis en examen parce que précisément il avait il s'était radicalisé par le biais de l'État islamique. Donc ce que vous considérez précisément, cet exemple est très intéressant, monsieur, parce que l'été dernier, vous avez les autorités du Royaume-Uni qui, de manière absolue, ont répété que c'était une fake news. C'était pourtant vrai. Alors moi, je ne vous dis pas. Il faut distinguer deux choses.
Vous pouvez rappeler rapidement de quoi il s'agit.
L'année dernière, dans la station, une station balnéaire britannique, un jeune homme, un adolescent, se précipite sur des enfants et les poignarde. Ça a généré des émeutes aux États-Unis parce qu'il se trouve qu'il était d'origine étrangère. Il se trouve que ce jeune homme-là était aussi chrétien, mais ce qui a été dit à l'époque était qu'il avait des motivations djihadistes. Le gouvernement britannique, toutes les autorités britanniques ont expliqué que c'était faux. Il n'avait pas de motivation djihadiste, aucune. Il y a des gens qui ont été condamnés. Alors, ne confondons pas tout, parce qu'il y a eu beaucoup de fake news sur le sujet aussi. Il y a des gens qui sont allés en prison parce qu'ils avaient participé aux émeutes. Ça, il est normal, quand vous entrez dans la violence, que ça vous envoie en prison. Il y a des gens qui ont été condamnés pour le simple fait d'avoir dit qu'ils doutaient de la thèse officielle. Eh bien, la thèse officielle, quand la justice britannique a mis en examen ce jeune homme, elle a reconnu qu'il avait des motivations djihadistes. Et donc, monsieur, la réalité, elle est complexe.
Il a pas fait que ça. Il a appelé à faire les émeutes. Et encore une fois, si on revient sur les génocides en Birmanie et en Érythrée...
Vous oubliez quelque chose de fondamental.
Point...
C'est-à-dire, là, on est en train de vraiment dériver. La question n'est pas celle des fake news. Elles ont toujours existé. Le protocole des sages de Sion. C'est vous qui invitez à quitter X. C'est pas moi qui invite à quitter X, ni aucun réseau social d'ailleurs, monsieur. La question des fake news, quand on se concentre sur les fake news, on oublie l'éléphant dans la pièce qui est pourquoi les citoyens que nous sommes ont perdu confiance dans les émetteurs traditionnels que sont les médias institutionnels, que sont les politiques, que sont le CNRS ou d'autres. Pourquoi les gens ont-ils perdu confiance?
Les gens n'ont pas perdu confiance dans le CNRS, excusez-moi.
Regardez toutes les enquêtes qui ont été faites, les gens ont perdu confiance. Mais il n'y a pas une institution qui s'en sort. Mais il se trouve que la science politique, je connais un tout petit peu, il n'y a pas une institution qui s'en sort indemne. Le degré de confiance, et donc ça nous renvoie à une question fondamentale qui est comment nos sociétés en sont arrivées là. Et les gens qui ont voté pour Donald Trump, monsieur, ils ont voté pour Donald Trump Trump, pas parce que Elon Musk leur disait, mais parce qu'ils ont une appréciation différente des enjeux de leur quotidien de celle que vous pourriez avoir vous. Ils ont une appréciation différente de l'impact de l'immigration, ils ont une appréciation différente de l'impact de l'épidémie des opioïdes dont je vous parlais, ils ont une appréciation différente de l'impact de la désindustrialisation. Alors après, peut-être se trompent-ils. Peut-être M. Trump n'est-il pas la solution à leurs problèmes. Mais ils ne sont pas idiots, monsieur. Mais ils ne sont pas idiots.
Ne faites pas procès, j'ai jamais dit qu'ils étaient idiots.
Si, parce que non, vous avez élu Donald Trump uniquement à cause d'Elon Musk. Mais
c'est pas ça que j'ai dit.
Par l'ensemble de l'université américaine.
Je répète ce que j'ai dit.
Vous nous l'avez dit tout à l'heure.
Je répète ce que j'ai dit. Excusez-moi. La marge entre pour la victoire, si je prends le vote populaire pour faire simple, entre Donald Trump et Kamala Harris, c'est 2,3 millions d'électeurs.
Je conçois que ce soit un résultat.
D'accord. Donc c'est petit. Non, attendez. C'est petit. Vous êtes d'accord ou pas? C'est petit, 2,3 millions sur 200.
Je vais rentrer dans le détail de l'élection américaine, parce que je vous ai dit, j'aime beaucoup la carte gauche.
Très bien. Alors,
parler du Wyoming.
Jean-Sébastien Ferjou, vous avez dit, je sais plus si c'est à West France ou à Libération, X a déjà fait élire comme président des États-Unis un agresseur sexuel et un délinquant financier suprémaciste blanc.
Ça, c'est par exemple.
Il a été condamné par la justice.
Non, mais c'est pas. Je mets pas.
Je conteste pas ce qu'est Donald Trump. On conteste le fait que X l'ait fait élire.
C'est l'idée que X l'ait fait élire.
Vous contestez le fait que X l'ait fait élire. D'accord. X, je dis que X a
mais
non, largement.
Il n'y
a pas une seule étude.
Je dis que X a largement participé à l'élection de Donald Trump. Évidemment que.
Vous avez le droit de l'avoir. Elle n'a rien de scientifique.
Attendez.
Il y a eu de la désinformation dans l'autre sens aussi.
En 2016, monsieur, les études qui ont été faites sur les réseaux sociaux en 2016, encore une fois, pas sur un échantillon de 400 personnes sélectionnées de manière volontaire à travers une presse dont on imagine où elle était.
Mais vous êtes biaisé en disant ça.
Mais monsieur, sur des dizaines de millions de comptes aux États-Unis, et après l'élection de 2016, je peux vous garantir que les universités américaines, qui ne sont pas des fiefs libertariens, voulaient prouver qu'il y avait eu une intrusion des Russes, notamment via l'affaire Cambridge Analytica. Voulaient montrer que les trolls avaient favorisé l'élection de Donald Trump. Ce qui a été établi, c'est que ça n'avait pas été le cas, et que l'impact sur le résultat électoral, parce que eux, ils ont des méthodes de vraie rigueur.
Les Russes n'ont pas piraté les serveurs de Harry. Bon, mais donc ils ne sont pas intervenus dans l'élection, vous dites.
Ils sont intervenus. Ces universités ont établi, en faisant des comparaisons entre des gens qui étaient sur les réseaux sociaux ou des gens qui n'y étaient pas, ou entre des gens qui y étaient, qui avaient cessé d'y être, et des gens qui y étaient et qui continuaient à y être, ça avait un impact quasi nul sur le résultat électoral. Parce que figurez-vous, monsieur, que les gens ne sont moins obsédés que vous par les réseaux sociaux. C'est aussi un truc un peu d'élite parisienne. Les gens, ils ont une vraie vie.
David Chavalarias.
Est-ce que je peux finir l'argument?
Allez-y.
Bon. Ce qui s'est passé aux États-Unis, ça reste encore effectivement à démontrer par des études plus poussées. Je ne le conteste pas.
Mais il n'y en a aucune qui va dans
le sens. Attendez, laissez-le parler.
C'est que l'écart entre Kamala Harris et Trump, c'est 2,3 millions d'électeurs. D'accord? Si vous regardez les techniques à utiliser Musk et Trump pour leur campagne. Ils ont fait de l'usurpation d'identité en faisant des faux sites. Ils ont envoyé...
Les démocrates aussi, monsieur.
Attendez, donnez-moi des exemples.
Il y en a.
Attendez.
Mais lisez la presse américaine, ça a l'air de vous intéresser beaucoup.
Si, justement, je l'ai lu.
On arrive au terme de l'émission, allez-y.
Donc, il y a eu des grandes campagnes, notamment, par exemple, en vis-à-vis des publics palestiniens pour dire que Kamala Harris était pour les Israéliens, et vis-à-vis des publics israéliens pour dire que Kamala Harris était côté des Palestiniens.
Il y a eu des campagnes.
Attendez.
Ça marche comme ça.
Attendez.
À toutes les élections.
Attendez. Il y a eu des campagnes de ciblage ciblé pour les populations noires en Caroline du Nord pour leur faire croire que
vous
avez compris l'idée.
Je vais vous donner un contre exemple, monsieur. Avez-vous entendu cette audition au Congrès?
J'arrive à mon point. Excusez-moi, j'arrive à mon point. D'accord. Donc ces techniques existent, d'accord. Peut-être elles sont faites dans les deux camps, d'accord. Sauf que vous avez un camp qui a un avion de chasse qui est Twitter et qui a toutes les données de Twitter. Et quand vous avez toutes les données de Twitter et que ces techniques sont autorisées, et que vous avez 100 millions d'Américains qui sont sous influence de ces techniques, plus précisément 32 millions d'utilisateurs réguliers, et que la marge d'erreur, c'est 2,3 millions, vous voyez qu'il vous suffit d'avoir une efficacité de 10% pour changer l'élection. Donc ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que ça a été uniquement le seul facteur, évidemment.
Mais vous avez quand même. Ça vous intéresse?
Attendez.
Ça vous intéresse?
Oui, mais juste après, sans me couper la parole, s'il vous plaît, après ça m'intéresserait, je vous écouterai. Mais si vous voulez, le constat quand même, c'est qu'il y a eu des méthodes assez malhonnêtes, et aussi notamment des achats de quasiment des achats de voix avec les loteries à 1 million et les achats de signatures à 47 $, qui ont été boostés par Twitter, qui était au cœur de la machine américaine et vous avez toutes les données. Et je veux dire, je fais le projet Politoscope, je sais qu'on peut analyser l'ensemble de la population, comprendre les peurs, comprendre les espoirs et les cibler. Et contrairement à ce que vous dites, je ne suis pas du tout dans ma chambre d'écho parce que j'ai passé 7 ans à parcourir toutes les chambres d'écho. Donc tout ce que je dis, c'est que quand vous avez quelqu'un qui, comme ça, à ce point, un patron d'un grand réseau social,
pardon, mais vous découvrez l'eau chaude. Pardon, mais la vie politique américaine est construite sur le fait. Alors, on peut le contester encore une fois. Moi, je pense que je préfère les règles de financement de la vie politique européenne.
On arrive au terme de cette émission.
Mais juste pour le dire, parce que c'est quand même important, la publicité négative a toujours existé aux États-Unis. Deuxième point, avez-vous entendu cette commission au Congrès américain avec des sénateurs interrogeant des gynécologues sur des questions, sur des affirmations de Madame Harris? Toutes ces affirmations étaient fausses, à commencer par une affirmation qu'elle avait répétée dans de multiples États, disant il y a des femmes aux États-Unis qui, à cause de la décision de la Cour suprême, ont été poursuivies pour le simple fait d'avoir fait une fausse couche. C'était une fake news, monsieur. Madame Harris l'a répétée dans de multiples États. Mais donc pourquoi est-ce que vous considérez que ce résultat d'élection serait lié uniquement à X? Vous le disiez vous-même, 32 millions d'électeurs.
On doit arrêter cette émission.
Il y a 250 millions d'électeurs aux États-Unis.
Oui, 2,3 millions d'écart.
Pardon.
C'est juste le résultat.
On va être obligé de couper les micros dans 20 secondes. On doit arrêter cette émission à cette seconde précise. Donc on ne se mettra pas d'accord. Il faudra qu'on fasse une émission sur le sujet, je pense. Merci à tous les trois d'avoir été là pour essayer de discuter. Merci David Chavalarias, auteur de Toxic Data, comment les réseaux manipulent nos opinions. Merci Samuel Fitoussi, je vous réinviterai parce que vous n'avez pas dit grand-chose. Je vous réinviterai quand votre livre sortira. Et merci Jean-Bastien Ferjou d'avoir été là. C'était Signe des Temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Marseille, avec à la technique Élise Leu et à la réalisation Luc-Jean Reynaud. Confronted him.